assez rassénir, assez rénant, on pourrait dire. Donc voilà, alors je vais continuer un petit peu aujourd'hui en bande dessinée pour vous donner quelques pistes, quelques artistes, et puis après je vais passer à la peinture. Alors dans les nouveaux artistes assez proches de Marjane Satrapi, vous avez quelqu'un qui est absolument remarquable, et j'ai peut-être pas assez de reproduction de ses œuvres ici, c'est Riyad Satouf qui maintenant connaît un succès grandissant et absolument mérité pour notamment l'Arabe du futur et les cahiers d'Esther, qui sont absolument prodigieux de finesse, d'humour, y compris d'une certaine violence, hypersensibilité au monde de l'enfance, qui traduit avec une intelligence incroyable. Hein, c'est quelqu'un qui est Riyad Satouf. Et l'Arabe du futur, tome 1, 2, 3, c'est autobiographique. Il a prévu même de raconter ça jusqu'à ses 18 ans. Donc, normalement, il a prévu de faire plusieurs tomes. Et c'est sa vie de fils de professeur d'université syrien, d'une mère bretonne, qui vit en Libye, en Syrie, etc. Et entre deux mondes, entre deux cultures, deux univers, etc. Il va vivre longtemps. Donc, c'est prodigieux. C'est écrit et dessiné avec beaucoup d'humour et en même temps d'une force sur les mondes qu'il vit. C'est incroyable. Le monde de l'enfance en général, toutes les semaines vous avez les cahiers d'Esther qui passent dans le Nouvel Observateur. Ça, c'est un dessin. Avec, il a aussi, alors, à la manière un petit peu de Gottlieb, souvent des petits commentaires à côté des personnes dans les rues, chantiers des airs. Il y a des narrations qui sont doubles ou triples, avec ce qu'on pense, des notes, des didascalies, des commentaires, etc. Et c'est un dessin simple et à la fois très très efficace. Et c'est la génération de. C'est la génération de Marjane Satrapi. Il a aussi un héros, un contre-héros qui est une sorte de Super Dupont. Il y a une influence indirecte de Gottlieb aussi. C'est Pascal Brutal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est effroyablement drôle et délirant. Parce que c'est ce que supporte pas Satouf, c'est les caricatures de virilité. Donc tout ce qui est machiste, macho, ultra viril, soldat, militaire, sportif, chanteur, rappeur, tout ça, c'est moqué, mais avec une méchanceté. Et on le voit d'ailleurs. En slip, kangourou, poilu, etc. Là, c'est traduit en espagnol, mais Pascal Brutal, c'est. Voilà, Pascal Brutal, donc c'est une sorte de. Et c'est un graphisme à la fois simple et très sophistiqué. L'épaisseur du trait, la précision, les qualités des couleurs, les perspectives, les modèles d'anatomie. Il y a une vraie virtuosité chez Riyad Satouf. Hein. Et alors, un humour parfois tragicomique. Hein. Voilà Pascal Brutal dans les douches. Ça, c'est toujours l'Arabe du futur. Ça a l'air simple, et y compris les visages, les émotions, les sentiments. Et alors ça, c'est lui, petit. Il se présente toujours. Petit blond en Libye et en Syrie, parce que c'est un blond. Ça, c'est Pascal Brutal, commando Vildo. Là. Pascal Brutal vit à Rennes, dans un monde où Madeleine serait président. Madeleine l'ultra-libérale. Un monde dégénéré, etc. Donc, alors, c'est pas à mettre entre toutes. Alors, ça, c'est la naissance de Pascal Brutal à l'hôpital de Rennes, Tronchalou, d'un père druide et d'une mère, alors, la mère teufeuse, hein, qui est issue d'un rapport sexuel entre une teufeuse et un punk à chien dans un fossé. Ah non, c'est le gynécologue qui est un druide, etc. Enfin bref, à l'hôpital de Tronchalou. Et Pascal Brutal. Je vous assure que c'est assez hallucinant. Donc Pascal Brutal, et puis il y a aussi des choses qui sont là, aigre douce, et c'est la vie secrète des jeunes, ça passait dans Charlie Hebdo, il a longtemps travaillé dans Charlie Hebdo, il n'était pas là parce qu'il avait quitté Charlie Hebdo quand il y a eu l'attentat de Charlie, mais c'est des trucs de notes dans le métro, ou dans la rue, et c'est effroyable de violence, parce qu'en fait, il a trouvé des extraits de trottoirs, quoi, c'est notre voyant, dont souvent c'est un constat totalement désabusé sur une humanité qui perd tout le sens de la compassion, de la sensibilité, de l'entraide, de la solidarité, et c'est d'une cruauté effroyable avec des gens qui sont... C'est désespérant, c'est à la fois drôle mais désespérant. La vie secrète des jeunes, c'est horrible, les humiliations, et alors dans ses traits, c'est un peu un fils croisé, on va dire, de Rezèbre, Etécher et puis Gottlieb, hein, effectivement. Et donc, c'est une nouvelle génération. Donc, quelqu'un aussi qui aussi, c'est d'une culture croisée, très, très intéressant. Et les cahiers d'Esther, ça, je sais pas si j'en ai parlé, donc toutes les semaines, il travaillait à partir d'une petite. Ce que lui raconte la fille d'amie à lui. Au début, elle avait 8 ans, maintenant elle a 10 ans. Non, elle est rentrée en 6e. Et toutes les semaines, elle lui raconte sa vie. Et donc, il déforme les choses, donc, pour pas qu'elle se reconnaisse ou que tout le monde la reconnaisse, parce que c'est une histoire vraie en même temps, mais légèrement décalée. Et c'est extraordinaire sur le monde de l'enfance. C'est un des rares artistes qui parle aux adultes, mais aussi du monde de l'enfance, où il exprime toujours une sensibilité infantile. Alors, c'est intéressant, parce que vous voyez comment est-ce que le monde de l'enfance aussi nous parle, que ça soit. Marjane Satrapi, que ça soit Barefoot Gen, Jeanne d'Hiroshima, c'est aussi une histoire d'un enfant, Riyad Satouf, etc. Vous avez quand même aussi dans la bande dessinée un graphisme qui est issu du monde enfantin et en même temps l'interpénétration entre le monde de l'enfance, de l'adolescence et le monde adulte est assez remarquable. Et ça touche de ce point de vue-là, on est exemplaire. Alors quelqu'un, bon, vous connaissez Reiser, vous connaissez tous Reiser, hein, bon, qui est décédé aussi. Alors là, on est dans les choses hallucinantes. Moi, je l'avais montré quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, parce que c'est peut-être le premier pionnier du dessin. Effectivement, expressionniste, on va dire. Hein, il retrouve les déformations, un humour et la caricature poussée à l'extrême du mauvais goût, de l'horreur et aussi d'un constat pessimiste sur une humanité. On vit une époque formidable et on est complètement dans l'actualité. C'est, vous avez quand même dans ce type, dans ce graphisme, un humour, mais alors à la Cioran, sur un désespoir sur l'humanité, etc. Et avec un trait rageur aussi, le trait apparemment maladroit, mais en fait extrêmement précis, expressionniste et parlant, chez Reiser est remarquable et prodigieux. Avec. Y compris, alors, c'est un de ceux qui va aborder aussi la sexualité de manière très très claire. Petite, tu pourrais pas demander une autre glace à ta mère, d'accord. C'est. Radio Centre. Alors lui, c'est une sorte, c'est un peu, à dire le Coluche du graphisme et de la bande dessinée, etc. La vie des bêtes. Mais en même temps, c'est quelqu'un. Je ne suis que sympathisant. Là, il est politiquement incorrect, c'est la provocation. Mais il est encore au cœur du débat sur les questions écologiques, sociétales, etc. Vous avez là. Mais une audace pas toujours facile à assumer et à mettre entre toutes les. Et là, l'Arche de Noé où tout va mal, c'est aussi. un humour prodigieux. Donc là encore, un graphisme exceptionnel. Et très très libre, parce que justement, ce qui caractérise, on va dire, la ligne, c'est qu'elle peut être totalement libre, hein, et se rapprocher de l'écriture. Un autre artiste contemporain, alors là, qui est quasiment. Effroyable, c'est une sorte là encore de réserve, mais avec une force horrible, dont on est presque dans l'abjection. Et quand vous le voyez, par contre, c'est un être extrêmement diaphane. C'est même lui qui a joué le rôle d'un androgyne, hein, dans je ne sais plus quel film qui a une bonne dizaine d'années. C'est Vuhmin. Un Vuhmin dont le nom est. Et ces personnages, on peut dire, sont à l'opposé, c'est comme si c'était toute sa part maudite. D'horreur et de crasse et de saleté, hein, du monde. Vous avez quelque chose vraiment de cathartique dans certaines bandes dessinées qui vont jusqu'au bout de l'horreur, comme par exemple ici. On est vraiment dans des choses très dégueulasses. Là, c'est une sorte de réserve absolue. Alors, il travaille maintenant aussi dans Charlie Hebdo et on est vraiment dans la scatologie, l'horreur.
Ça, c'est drôle.
Voilà. Donc, c'est. Vuhmin, mais à connaître. Alors, il faut apprécier, hein, mais il y a quelque chose de libératoire, hein, dans l'art de Vuhmin. Alors, ça, c'est un peu des extrêmes. Alors, il y en a d'autres, hein, je ne vous présente pas tout le monde, mais qui m'a parlé de, effectivement, Jacques Tardy, comme un idiot, j'ai oublié. Ça me semblait évident, parce que lui aussi a un graphisme, alors c'est bête, je n'ai même pas d'image, tout en noir et blanc, très inspiré aussi des grandes causes du XXe siècle. Déportation, guerre 14-18, etc. C'est lui qui a fait au début Adèle Blanc-Sec, qui est un personnage un petit peu une enquêtrice du 19e siècle, fin 19e siècle dans Paris. Il a illustré aussi Nestor Burma, tout un travail sur le roman populaire, roman noir. Il a illustré Céline aussi, Voyage au bout de la nuit. Et depuis un certain temps, il travaille beaucoup sur la guerre 14-18 que son père a faite, etc. La guerre 14-18 et la guerre 39-45 où son père était dans un stalag. Et son trait, son graphisme noir, blanc, la sobriété, l'esprit de sérieux et de gravité de son œuvre, là, on est très loin de vue humain, on est au contraire dans quelque chose de un peu d'élégiaque presque chez Tardi, très intéressant. Alors, chez les grands dessinateurs de bande dessinée contemporains aussi, alors, il y a ceux qu'on avait vus lors de l'attentat de Charlie, je ne vais pas en reparler, ça touche chez Armin Magdalena. Alors, ah, le chat du rabbin. Alors, Johannes Farr, oui, le truc, c'est qu'il est virtuose, mais il m'énerve, il fait trop de trucs. Là, il le voit partout, il fait tout. Enfin, par contre, il est très bon. Hein. Et alors, il est de la bande de Satrapi, Satouf, etc. Ouais. Johannes Farr, qui a fait le chat du rabbin, notamment. Et puis, le petit vampire pour les enfants, qui est très bien. Hein. C'est un très, très bon graphiste. Alors, lui, il a travaillé à l'encre, qui est aussi remarquable, virtuose, etc. Mais là, c'est pareil. Sur la bande dessinée, en fait, je pourrais vous en montrer presque trop. Donc, j'avais encore un ou deux autres où je vous donne des noms comme ça, si vous les cherchez, parce que j'ai pas toujours les noms. Sur des bandes dessinées, alors qui est revenu à la narration sociologique et qui a un graphisme beaucoup plus léger, presque de chronique, c'est Étienne Davodeau, D-A-V-O-D-E-A-U. Davodeau, D-A-V-O-D-E-A-U, et qui est dans une sorte de... C'est un petit peu un Raymond Depardon de la bande dessinée, si vous voulez. Étienne Davodeau, il va plonger dans des milieux et traduire des ambiances, souvent de France profonde, et alors c'est assez drôle parce qu'il a fait un truc sur une région que je connais bien, c'est les Pays de Loire du côté de Cholet, hein, sur les paysans de la région de Cholet, dans les années 60-70, la politisation, la lutte avec la religion, les conquêtes des terres, puis le remembrement, donc des choses tout bien, c'est vraiment... Il a fait aussi une bande dessinée sur la reconstruction de Brest en 1951 et les grandes grèves, s'appelle « Un homme est mort ». Et donc vous avez, alors là c'est une bande dessinée faite au lavis, souvent à l'encre de Chine, avec des lavis très délicats, et des personnages, ça a l'air un peu maladroit au début, puis en fait c'est très 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 prenant, on rentre dedans, il n'y a rien de spectaculaire, c'est vraiment une bande dessinée, c'est aussi de l'intime, avec un dessin très léger et de très bonne qualité. Et lui aussi, c'est des romans graphiques souvent, donc c'est des petits fascicules un peu relativement petits, et très très bien. Les mauvaises gens, si vous êtes des Pays de Loire, ça vaut le coup de le lire. Hein.
C'est lui qui a fait Lulu Femme
Nue. Oui, c'est lui qui a fait Lulu Femme Nue, qui a été adapté en cinéma aussi. Puisque lui, vraiment, la chronique, la narration, les gens de tous les jours, une sorte de simplicité remarquable.
Comment s'appelle celui qui fait Maus?
Maus, c'est Art Spiegelman.
Oui, c'est
celui-là, c'est ça. Voilà, donc Art Spiegelman, c'est ce qu'on a vu. Un autre artiste qui est très intéressant, qui a un style assez simple et pourtant très subtil, attendez, il faut que je le retrouve ici, c'est Manu Larcenet. Vous pouvez noter aussi, Manu Larcenet, Le combat ordinaire, normalement, et Retour à la Terre, qui sont assez extraordinaires. Alors, c'est un artiste un peu dépressif, c'est pas du tout... C'est à la fois drôle et désolant. Hein, et alors, Manu Larcenet, c'est très sensible, et son dessin simple rapprocherait un peu de Reiser ou Bretécher. Et, alors, attendez, je vais vous en montrer du Larcenet... Voilà. Est-ce que c'est lui ou c'est Manu ou c'est Manu de... Ah non, c'est Margerin. Bon. Margerin avec Lucien. Bon, je pourrais. Mais, et non, Larcenet, je ne l'ai pas ici. Donc Manu Larcenet, bon. Ah si, voilà. Combat ordinaire. Alors justement, je crois que j'ai pris cette planche parce que vous avez un dessin très simple. Hein, et en même temps, rehaussé d'ombre, ce qui est assez rare. Et même parfois, il a des planches entières, tout d'un coup, il se laisse aller à un graphisme extrêmement, très très beau, très fouillé, presque expressionniste, de très grande qualité, qu'on sent poindre un petit peu, mais lui, il maîtrise aussi espace, perspective, ambiance, dialogue, situation, et c'est plus ou moins autobiographique. Le combat ordinaire, il se bat un peu avec le souvenir de son père, et retour à la terre, il fuit la ville, il va se mettre en pleine cambrousse pour dessiner et faire sa bande dessinée. Ce sont des séries très intéressantes. Voilà, après, je dis j'arrête parce qu'il y en a trop. Ça serait quasiment un cours à part entière de tout faire sur la bande dessinée. Alors, pour faire la transition quand même, un autre chapitre que je n'ai pas explorer dans l'histoire du graphisme et art plastique, alors qu'on devrait et on pourrait, et il faudrait que je le fasse, c'est tout l'art de l'affiche. Je vous ai parlé l'autre jour un petit peu de la misère du graphisme publicitaire et affichiste en France, à la différence par exemple de la Pologne qui avait gardé une grande tradition, etc. Et il y a un artiste qui est resté peut-être un exemple, mais dur, un graphisme. Il vient du monde de l'illustration pour enfants et en même temps, il a fait des affiches politiques. C'est Tommy Ungerer. Tommy Ungerer, U-N-G-E-R-E-R. Je crois qu'il vit toujours.
Il est passé à la télévision.
Ah tiens.
Si on parlait de lui, c'est donc...
Ah oui.
Il y a une exposition, je crois, soit à Strasbourg.
Oui, ben, il est un musée à Strasbourg. Hein.
Il est alsacien.
Oui, il est alsacien. Et il y a un musée à Strasbourg, Tommy Ungerer, qui est assez remarquable, parce que justement, on fait le lien entre, au début, une sorte d'illustration, livre pour enfants, etc., et puis un dessin et une capacité à avoir des images fortes, comme ça, qui vont le faire être aussi un très grand affichiste, sur lesquels, lui, il met à la fois la qualité du trait, les aplats de couleurs, qui sont nécessaires souvent pour une affiche. Il faut aller vers une sorte de simplification hein, du trait et des couleurs, pour que ça parle. Une affiche, il faut qu'elle soit assez simple. C'est comme une vignette de bande dessinée. Il ne faut pas qu'on s'attarde trop, normalement. Il faut que ça glisse. Hein, de ce point de vue-là, vous avez un esprit de synthèse. Hein. Et il faut aussi se faire remarquer par une sorte de signature. Hein. Donc le graphisme est essentiel parce que personnaliser son trait, de l'écriture au dessin, c'est quelque chose qu'on voit très bien chez Ungerer, où on repère très bien. C'est une des collections d'affiches. Voilà donc quelques extraits. Alors, je vais quitter le monde de la bande dessinée pour revenir un petit peu au monde de la peinture avec justement les croisements, comme ceci on revient dans les arts plastiques majeurs, entre guillemets, dans le domaine de la peinture, dans lequel on va retrouver un graphisme qui est assez proche de la figuration et y compris, on va dire presque de la ligne claire, c'est-à-dire le dessin, la ligne, le trait que l'on va voir à l'honneur. Alors, la grande différence entre bande dessinée finalement et on va dire peinture, c'est que la bande dessinée, ben, c'est une narration, c'est un récit qui s'écoule de case en case, de page en page, hein, dans lequel il est inconcevable de ne pas avoir de narration et de sens de lecture. Alors qu'une peinture, elle est polysémique. Elle n'est pas attachée à une narration ni à un sens de lecture forcément, elle est toute seule porteuse de sens, donc c'est quelque chose qui est un peu particulier. Alors, le défaut, on va dire, d'une illustration et de la bande dessinée, c'est qu'elle est quand même au service de la narration, donc un manque d'autonomie. Certaines œuvres de bande dessinée, certaines vignettes de bande dessinée, si on les sépare, si on les découpe, si on les met toutes seules, peuvent avoir une certaine autonomie, une certaine puissance, mais en général, elles sont extraites d'un contexte. Les œuvres d'art qu'on va voir ici vont être amenées dans une sorte d'entre-deux. À la fois, elles peuvent être lues, et elles sont faites pour être lues toutes seules, indépendamment de tout autre contexte. Alors, un des spécialistes, un des ceux qui est très connu en France dans ce genre de travail graphique qui pourrait le rapprocher de la bande dessinée, c'est Valerio Adami. Où là, on est dans une peinture clairement figurative, dans laquelle le contour et la figure ont une importance essentielle. Mais en fait, au lieu de nous guider, la ligne ici nous perd. De manière très très claire, Adami nous perd. C'est-à-dire que les contours qui normalement doivent isoler, raconter, identifier, dans la bande dessinée, hein, les signes, la figuration, faire une figure, c'est qu'on puisse l'identifier. Mais là, dès qu'on identifie quelque chose, on glisse vers un sens annexe. Hein, on dérive, on s'écarte. Dès qu'on a identifié quelque chose, un râteau par exemple, on va glisser ici vers des signes, des lignes qui vont se confondre avec ici les planches, du bois, la dune, on ne sait pas. Ici, les roues du chariot vont être coupées de manière un peu aléatoire et étrange. On va voir des mollets, on va voir un corps. Est-ce que c'est un sac à dos? Pourquoi il y a un corps dans les bras? Est-ce qu'il la tient dans les bras ou c'est sur son dos? D'un coup, vous avez des ambiguïtés, ce sont des drapés, des plis, une montagne. Les couleurs ne correspondent pas non plus au découpage des lignes. Et Valerio Adami utilise assez systématiquement ce rapport de connexion et de déconnexion entre couleurs, lignes, figures, pour introduire des éléments justement mystérieux, un peu comme une sorte de... comme si c'était des indices qui nous perdaient. Donc il y a les signes qu'on repère très bien, la pomme ici avec les épluchures, hein, etc. Et cette ligne aussi, qui est toujours décalée, est-ce que c'est un pli? On dirait le fût d'une colonne. Et il y a une part aussi d'interprétation et de lecture. Alors, Adami est très inspiré par tout ce qui est freudisme, psychanalyse, avec l'idée du glissement de sens, des lapsus, des approximations, des choses qui se chevauchent, hein, les choses qui sont prises les unes pour les autres, ou des confusions. Et d'ailleurs, il travaille avec des calques, en fait. Il part de photographies, il va faire des calques sur ces photographies, il va retenir des éléments dans les photographies qui l'intéressent, et pour qu'ils aient la même échelle, et ensuite il va connecter des calques, c'est-à-dire des fragments des photographies qu'il a choisies, pour ensuite faire des sortes d'assemblages un petit peu poétiques et mystérieux. Donc ça a l'apparence de la simplicité, hein, de même une séduction, on dit bah, « tiens, il y a une image, on reconnaît quelque chose, il y a des belles couleurs, des aplats », et en même temps, on plonge dans des effets de lumière, des inquiétudes, des indices, des enquêtes, des vides, des lacunes, et de manière assez claire. Alors, il fait la même chose, y compris avec l'écriture, c'est en ce sens-là aussi, c'est un graphiste intéressant, hein, ou l'écriture, où tout d'un coup, certaines lettres aussi peuvent être soit volontairement transformées légèrement, de sorte qu'on puisse identifier plus ou moins le nom, le mot. Là, on retrouve encore l'idée de l'écriture, la ligne, la trace. Autre chose, son graphisme est discrètement subtil, avec, vous voyez, des très légers effets d'ombre et de grossissement. En fait, là, c'est une ligne, mais en fait, ça devient une ombre propre ici. Une ombre portée, parce que tout d'un coup, vous avez des traits qui s'épaississent. Comme si tout d'un coup, ce qui est juste un contour devenait en fait une traduction du volume. Et là aussi, chez lui, c'est une manière de creuser l'espace. Ce sont des aplats qui deviendraient comme des feuilles, ou comme s'il y avait des effets d'ombre et de lumière réels, très discrets. Donc là encore, ça c'est un travail graphique pur. Et là encore, toujours le même principe. Alors, Valerio Adami a très peu évolué, par contre, au fur et à mesure de son art. C'est quelqu'un qui vit toujours. Hein. Là, vous voyez même quelques effets graphiques qui donnent des effets de volume sur les joues ici, même le violon, les mains, etc. Des découpages, hein, de séquences, d'indices, de fragments, autant de notations. Alors, quelque chose d'assez décoratif en même temps, parce qu'on est dans des aplats, des harmonies colorées qui sont pures, et puis, en même temps, l'impossibilité de saisir réellement la figure et la narration. Donc ça, c'est typique. Et là, ça, c'est un de ses plus connus, d'ailleurs, référence à Freud. Freud en voyage vers Londres, hein, Freud in viaggio verso Eulo. Alors là aussi, le mot qui est coupé, viaggio, il n'y a pas le i sur le viaggio, le io est coupé. Donc vous avez ça aussi, verso le London, n'est pas fini. Donc là aussi cette idée d'hésitation, hein, de bafouillement, de bégaiement, de rature. On va le voir aussi par exemple dans l'espèce de petit signe qui est gratté, qui sont gravés à la pointe de l'ongle. On dirait des hameçons, des insectes ou des petits personnages, des oiseaux, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est aussi de l'interprétation, justement, hein, des figures qu'on ne peut pas saisir, comme quelque chose qui aurait du mal à se dire. Et en fait, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur une très grande connaissance de la culture, de la philosophie et de l'histoire de l'art. Hein, il y a des références clairement à Matisse, au niveau des aplats, au niveau des contours, de l'épure. Des références à Picasso, y compris par le signe, hein, où tout d'un coup, on repère que c'est le train, juste essentiellement par deux éléments, où là, tout d'un coup, la courbe ici évoque la vitre du train, et là, la poignée, c'est tout. Et tout d'un coup, finalement, de manière métonymique, tac, on se retrouve dans un train, par des signes. Hein. Le chapeau aussi, Freud est donné uniquement par ses lunettes rondes, quasiment, et la forme quasiment du visage, oui, mais ni la barbe, ni rien. Donc, il va retenir aussi des éléments signifiants, hein, au niveau de la figuration, donc, là, quelque chose de très, très intéressant. Et puis, la liberté de la couleur, l'autonomie de la couleur. La couleur, cette fois-ci, n'est pas une couleur naturaliste et figurative. Elle est une part d'irrationnel complet. Donc, on se retrouve aussi dans le rêve, un petit peu, les choses en apesanteur, le flottement, donc ça aussi, Matisse, etc. Autre chose encore, référence à Mondrian, discrètement, c'est les surfaces colorées sont planes, mais si vous regardez bien, elles ont des profondeurs différentes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le jaune et le bleu comme si c'était au même plan. On voit après une sorte de sensation de spatialité. Et ça aussi, chez Adami, c'est très fort. C'est-à-dire que vous avez des surfaces planes, mais qui ont des profondeurs différentes. Alors, Ça, c'est intéressant. Et là encore, hein, vous voyez les découpages, le rouge à la Matisse, les écritures inversées, les fragments, ici, les effets de perspective. Très complexe, hein, en fait. Alors, quelqu'un qui est proche d'Adami, qui vit toujours, qui est un peintre franco-haïtien, s'appelle Hervé Télémaque. Hervé Télémaque, on trouve à peu près le même usage au niveau de la ligne que celui d'Adami. Alors, ils font partie de la même bande. Hein. C'est ce qu'on appelle la figuration narrative ou la figuration critique. Ce sont des artistes qui, dans les années 70, se sont souvent mis ensemble parce qu'ils n'en pouvaient plus de l'abstraction, de l'expressionnisme, du minimalisme, des peintures conceptuelles. Tout d'un coup, il n'y avait plus de peinture, il n'y avait plus d'image, il n'y avait plus de figuration. On n'était que dans la matière, la découlinure, la présence, le côté physique. Ces gens qui ont voulu se battre de nouveau avec l'image. Et donc se dire, qu'est-ce qu'on fait avec les images maintenant? Est-ce qu'on peut encore faire des images complexes, critiques? Alors, bien sûr, ils sont... Voilà, ils sont dans la tradition un petit peu surréaliste d'ailleurs, la part un peu surréaliste aussi de Miro, de Picasso, etc. Le graphisme, par exemple, de Miro, effectivement, qui va quelqu'un qui travaille le graphisme, mais il n'y a pas les effets de matière qu'il y a chez Picasso et chez Miro. Eux, ce sont des gens qui ont travaillé au contraire des aplats et des surfaces très maîtrisées. Hervé Télémaque travaille beaucoup lui aussi avec des calques, avec des fragments, alors là, encore plus mystérieux que Adami, mais si vous regardez bien, on voit ici le museau d'un âne. Hein, avec ici les oreilles, ici on ne sait pas si c'est un âne ou un lama, et puis comme si c'était une sorte de peinture mystérieuse, hein, souvent totalement éclatée, fragmentée, comme si c'était une sorte de mémoire personnelle. Il ne cherche pas forcément à raconter une histoire très claire, mais lui, pour lui, c'est l'assemblement de souvenirs personnels et individuels. Hein, ça, c'est, donc Hervé Télémaque, attendez, j'en ai d'autres. Là encore, hein, on va travailler sur... Tu vois, alors on dirait Sarkozy, mais je pense pas que c'est trop ça date de 1962, donc il était encore petit. Et là, vous voyez, tout d'un coup, c'est une sorte de figure qui essaye d'apparaître. Là, c'est quelque chose aussi, ces artistes montrent un petit peu aussi la difficulté à figurer. Parce qu'on est tellement saturé d'images et que la figuration, c'est pas évident de la rendre performante ou dense. Et donc, à la limite, la meilleure manière qu'il puisse arriver à une image, on va dire, à une figure, à une forme, ben c'est d'avoir des accidents, tout d'un coup, d'être ouverte. Là, on est un peu dans l'idée d'une œuvre ouverte aussi, parce qu'on ne peut pas l'enfermer, au sens strict, d'ailleurs, la silhouette n'enferme pas l'âme. Il y a aussi des superpositions, des coupures, mais on reste quand même dans l'utilisation du trait. Un autre artiste, lui, qui va vouloir se battre résolument pour la figuration et une figure, on va dire, identifiable, c'est Henri Cueco. Il fait aussi partie de la même bande. C-U-E-C-O. Vous l'avez certainement entendu si vous écoutiez les papous dans la tête à France Culture, parce que France Culture, Henri Cueco était toujours présent, il vit toujours, hein, il est âgé. Bon, c'est les gens qui ont plus de 80 ans maintenant, bon, à l'âge de Gottlieb, à peu près, peut-être un peu plus même, hein, c'est cette génération-là. Et Henri Cueco, c'est un grand peintre et dessinateur, qui lui a toujours voulu conserver un rapport à la figure et à la nature. Par exemple, ce sont des séries de peintures, c'est de la peinture, sur des toiles, au pinceau et à l'encre, sur des paysages, hein, avec cette idée justement d'une modestie. Hein. Cueco va peindre des patates, des chiens, de l'herbe, il va revenir à des graphismes essentiels, sans grande histoire apparemment, mais la simplicité des choses... Essayer de lui donner de la puissance et de l'ampleur. Comme par exemple ici, des très belles peintures très basses sur des effets de racines, de plantes, etc. Alors là, le document est un peu flou. Hein. Et par exemple, ces travaux sur les chiens. Ici, ça c'est encore des plantes. Hein. Alors c'est un travail un petit peu obsessionnel. Comme si, là, on ne cherchait pas le sens, mais le dessin et le trait pouvaient tout d'un coup finir par retrouver de la densité. C'est que tout en restant dans la figuration, et dans le dessin, et dans le trait, et on allait s'écarter quand même d'une illustration un peu bête, d'un sens trop fermé. Donc, Cueco cherche quand même aussi une part de mystère on se perd, comme à la limite, on se perd dans la nature, hein, qui c'est une figuration. Si on regarde des herbes, si on regarde des vagues, si on regarde des branches, si on regarde des racines, c'est quelque chose qu'on peut identifier, et pourtant, ça ne nous raconte rien. Donc on peut être à la fois figuratif, et en même temps ne pas être enfermé dans une narration très simple. Et le dessin, ici, ben, retrouve aussi tout son plaisir, on va dire, toute sa puissance, puisque il va trouver des sujets, comme par exemple des plantes, l'herbe, les surfaces, comme par exemple l'eau, la surface de l'eau, il va faire des surfaces d'eau, de vagues, hein, qui sont aussi qui peuvent être traitées par le trait. Et là encore, des effets graphiques très intéressants, ça encore. Et par exemple, son travail sur les chiens est aussi très intéressant. Et là encore, fragments, répétitions, le dessin depuis l'ébauche jusqu'à l'ombre, de la ligne jusqu'au volume, apparition, disparition, des motifs presque décoratifs. Tout à coup, le côté un peu inquiétant de la meute qui court. Donc, un retour à une figuration ouverte. À chaque fois, c'est un peu ça l'idée. C'est que tout d'un coup, cette figuration n'est pas soumise à l'illustration de la narration, mais s'ouvre. Et là, voilà ce que ça va donner aussi, hein, Cueco, sur une mise en scène de son travail figuratif purement graphique. Là encore, très peu de couleurs, et cette espèce de meute de chiens, dans laquelle il va donner une réalité, y compris avec un zoom, quelque chose de très subtil, je ne sais pas si vous avez vu ici, plus ils sont loin, plus ils sont petits, et ils grossissent, donc il y a une sorte d'escalier, hein, une mise en scène en travaillant sur le support, très intelligente, très efficace, d'un dessin pur, hein, qui se transforme jusqu'au volume, gravure, et puis qui prend réalité dans l'espace. Alors, Henri Cueco avec ses chiens. Alors quelqu'un aussi qui a été exposé et mis à l'honneur récemment à Beaubourg, c'est Fromanger, qui fait aussi partie de la même équipe, on va dire. Alors, ces artistes-là, la plupart du temps, Adami, Fromanger, Cueco et d'autres, vont travailler ensemble, souvent ils vont même, avec Monori, ils vont même fonder une coopérative, hein, au début la coopérative des Malassis, ils veulent retrouver aussi un art populaire. Leur analyse, c'est qu'une partie de l'art, on va dire beaux-arts, en devenant trop individualiste, trop intellectuel, trop expressionniste, trop abstrait, se coupe d'un public populaire et devient une sorte d'art pour l'art, un art savant, un art de référence, d'autoréférence. Et leur volonté délibérée de retrouver une peinture dans laquelle il y a des signes qu'on peut identifier, qui même va prendre ces images dans, on va dire, une iconographie populaire, en dessiner, images, illustrations, photos, journaux. C'est une manière aussi, c'est leur manière de dire ce qu'ils appellent la figuration critique. C'est qu'on est dans un monde d'images, le rôle de certains artistes, c'est de travailler ces images pour les interroger, les rendre plus complexes. Et ça, rendre plus complexe une image, une figuration, c'est un de leurs objectifs. Donc, de manière très très claire, ils montrent comment il y a ce qu'on voit, ce qu'on croit voir, tout d'un coup ce qui peut échapper à l'identification, etc. Alors par exemple, de manière très claire, Fromanger utilise des images de journaux, qui va transformer en sérigraphie, qui va agrandir, qui va projeter, qui va ici travailler de manière bicolore, et tout d'un coup, avec uniquement le bleu, le blanc et le rouge, donc un travail aussi graphique sur le symbole du drapeau français, il va jouer sur le bleu, la couleur sombre va donner des modelés, le rouge devient une surface pure, et là vous avez justement une sorte de circulation assez intéressante. On travaille sur les contours qui là sont flous, dès qu'on est dans le volume, il n'y a plus de contours, dès qu'on est dans le rouge, qui est comme une sorte de tache de sang, il y a des aplats et au contraire, on n'est que les lignes. On a un graphisme parce qu'on est dans la bordure et dans la ligne. Alors que là, on n'est pas dans la ligne, on est dans le volume. Donc des jeux, puis aussi la structure qui se défait, c'est que là, on est dans. Il y a à peu près 12 formats, hein, rectangulaires. Mais selon la façon dont ils sont agencés, ben, même les lignes verticales et horizontales se brouillent, hein, soit sont révélées, soit se brouillent. Donc tout un travail subtil chez Fromanger. Là encore, on va retrouver le rouge qui déborde, le graphisme simplifié des logos ou des drapeaux, et à chaque fois le rouge qui déborde. Alors, très clairement, ces artistes sont presque tous marqués par 68, les années 70, donc on va réunir une position de gauche, un travail en direction d'une population qui semble coupée de l'art et de la culture qu'ils veulent réunir, et donc ils vont trouver aussi des références à l'affiche, à l'art populaire, à la bande dessinée, au graphisme de tous les jours, etc. Donc vous voyez, c'est un petit peu aussi un courant très politique et très clair. Et là, le rouge, évidemment, c'est le rouge de la révolte et du sang qui déborde et qui réunifie en même temps toutes ces nations. Alors, Fromanger, c'est aussi quand même quelqu'un qui est un excellent graphiste, hein, et qui va faire du trait de la ligne dans cette très belle peinture qui est exposée à Beaubourg, très très grande, qui fait presque 10 mètres de long, hein, sur 3 mètres de haut. C'est assez remarquable, parce que là, vous avez... C'est entièrement peint, mais effectivement, ce sont soit des aplats, soit des lignes, soit des contours, soit des bordures, à chaque fois, alors qu'ils se débordent les uns les autres, etc., comme une sorte de zapping sur le monde contemporain de toutes les images que l'on peut avoir, photos, silhouettes, publicités, écritures, informations, carnets de voyage, carnets de route, images de la, images télé, etc., qui vont être réunis, hein, images de guerre, par des aplats, essentiellement, et puis des lignes, qui sont à la fois des lignes de connexion, lignes électriques, lignes de réseau, etc. De ce point de vue-là, l'art de Fromanger est intéressant aussi, parce que de connexion par les lignes rentre en écho avec la communication contemporaine, où tout se fait par des réseaux et des lignes. Des web, toiles, réseaux électriques, réseaux routiers, réseaux de chemin de fer, etc. Tout est connecté par des lignes et des réseaux. Donc, tout d'un coup, la ligne aussi devient une expression d'un monde contemporain. La circulation, c'est... Là, Fromanger retrouve des problématiques intéressantes. Travaille sur le logo aussi, le détournement de l'image publicitaire. Alors là, c'est Fromanger, mais c'est très proche d'un autre qu'on va voir tout à l'heure. Écriture, logo, signalétique. Hein, ça encore, ce sont des choses qui sont très très claires. Et c'est toujours Fromanger. Et la peinture, donc, réunit tout cela. Avec... Alors évidemment, ce qui caractérise, on va dire, l'art, la peinture, les arts majeurs, c'est ce qu'on appelle la polysémie, c'est-à-dire les ouvertures de sens, ça peut se dire dans un sens, dans l'autre, les interprétations, la densité, hein, et notamment, il faut manger une sorte de générosité dans couleur, forme, etc. Et puis l'identification, c'est-à-dire que ça aussi, chez lui, ça marche bien, on peut très vite avoir des repères auxquels on s'identifie. C'est encore ces Fromanger, vous voyez, l'idée des réseaux et des lignes, hein, et qui, les connexions entre les gens, hein, avec la vision d'une ville vue de dessus, la carte, la cartographie, vue en perspective, là encore, vous avez des déplacements à pied, et chacun n'est finalement qu'un nœud de réseau. Hein. Ça aussi, c'est intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que Fromanger va faire beaucoup, c'est un travail purement linéaire. Hein. Donc dessin et peinture se recroisent de manière très très claire, avec tout ce qui évoque aussi les réseaux linéaires, alors les cartes, les simplifications, écriture, logo, etc., plan, schéma aussi, scientifique, etc. Un autre artiste qui, lui aussi, fait référence clairement à la bande dessinée, mais pour aborder des questions majeures, c'est l'Islandais Erro, E2RO. E2RO, alors O accent grave même. Je ne sais pas quel est son vrai nom, mais un nom islandais... C'est
compliqué.
Oui, Héros, c'est résumé. Il s'appelle Gundudmur, je vois. J'oublie toujours. Alors lui aussi, il vit toujours. Hein. C'est des gens, Fromanger vit toujours, Héros vit toujours, Télémaque aussi, Adami aussi. C'est des gens qui ont à peu près 85-86 ans. Héros, alors c'est un virtuose du dessin. Et par exemple, vous voyez tous, vous connaissez l'épisode ici relaté, c'est-à-dire qu'il va utiliser un style apparemment anodin. Bande dessinée américaine, Mickey, des petites choses qui ont l'air un peu totalement anodines. Mais en fait, si on regarde bien, c'est l'évocation du coup d'état militaire en 1973 contre Salvador Allende, clairement dit ici, avec les juntes, les junta, la junte aidée par des néo-nazis, enfin pas des néo-nazis, des anciens nazis, et on le sait maintenant, des militaires français, les méthodes françaises, c'est eux qui ont quasiment conseillé presque toutes les dictatures militaires d'Amérique latine. La CIA s'est inspirée avant tout des militaires français, surtout pour toutes les guerres intérieures, parce que les Américains n'avaient jamais eu à lutter, à s'appuyer sur des guérillas, on va dire, internes. Tandis que les Français, avec les guerres entre guillemets coloniales, les guerres de libération qui sont vietnamiennes, indochinoises ou algériennes, ils savaient très bien infiltrer, etc., avoir des agents doubles et faire une guerre urbaine. Pas les Américains. Les Américains, tapis de bombe. Et donc, les Américains, c'est l'argent, la motivation politique, mais la technique de guérilla, la technique militaire, ça a été essentiellement par des forces françaises qui étaient souvent, qui étaient plus théoriquement en service.
Hein, mais grève des camions,
là, qui ont été recrutés. Oui, alors il y a eu la grève des camionneurs, etc.
C'est presque, comment on dit, des consultants.
Des consultants, oui. Consultants, bien sûr, c'était des consultants. Oui, oui. Et là, vous avez effectivement cet épisode effroyable dont vous vous souvenez peut-être, les mains de Victor Jara coupées à la hache, ici, dans le stade de Santiago du Chili. Victor Jara, qui était le chanteur de l'Unité populaire chilienne, quand il est rentré dans le stade où il y avait tous les prisonniers, un des bourreaux lui a dit « Mais c'est toi le chanteur ». Il lui a fait poser les mains sur un billot, il a coupé les mains à la hache. Ouais, le guitariste, chanteur, etc. Et c'est lui qui chantait l'hymne de l'Unité populaire. Et il a dit « Chante maintenant ». Et il a levé ses moignons, sanglants, et il s'est fait abattre d'une rafale de mitraillette devant tout le stade, qui a chanté, qui a repris en chœur. Donc, quelque chose de très émouvant et effroyable. Et donc, comment le dire? Comment le montrer sans tomber dans le pathos? Et Héros réussit à signifier ça avec une sorte de désespoir, aussi une sorte d'ironie, hein, à la fois le côté farce d'un monde à double face, le monde drôle, Mickey, Donald, Oncle Sam, etc., et la face sombre, etc. Et ça, c'est assez clair, hein, chez lui, avec la caricature. Et là, vous voyez les mains, hein, effectivement, et à côté, les caricatures de Easy Rider, les Mickey, les Donald, etc., bon. Et ça, c'est typique de Héros. Hein. Donc, là aussi, jouer sur un registre multiple. C'est encore lui, hein, parce que c'est quelqu'un qui est une sorte de dessinateur presque boulimique. C'est un peintre et dessinateur boulimique. Et ça, ce sont des...
Alors,
il s'inspire... Oui, il s'inspire de... Alors, chez lui, j'ai jamais vu, enfin, on voit des photos... Il y a une sorte de collection hallucinante de magazines, de revues, de BD, de livres, d'illustrations, de magazines techniques sur les avions, les oiseaux, tout. Toutes les images l'intéressent. Et dans sa peinture, elle essaie de faire une sorte de somme. De tout, par exemple, sur les oiseaux, eh bien, il va repeindre. Alors attention, c'est ni collé, ni décalqué, il repeint tout. Tout est peint et dessiné. Et c'est des grandes toiles. Et il fait à peu près, je ne sais pas, mais 100 toiles par an. Peut-être pas 100 toiles par an, mais pas loin. C'est un travailleur hallucinant. C'est qu'en plus, c'est des grandes peintures. C'est des...
Oui, celle-ci, voilà.
2 mètres sur 3 mètres. Et attention, il en a fait plein. Il a fait les paysages d'oiseaux, paysages d'avions, paysages de voitures, où tout d'un coup, cette idée de la saturation. Saturation d'images, monde, tout d'un coup, la Terre en même temps saturée de tout. Cette idée d'engorgement. Et lui se bat en essayant de comme s'il voulait courir après l'espèce de train de la prolifération. Et en même temps, une grande virtuosité, le bonheur incroyable de ne pas se poser de questions, d'être bête quelque part. C'est de foncer, de dessiner comme un fou. Le plaisir fou de se plonger dans cette espèce de figuration absolue. Et ça, c'est assez remarquable. Donc, Héros, en plus, il a plusieurs techniques. Ça, c'est encore lui. Alors, ça, c'est sur le pétrole. Hein, c'est sur le pétrole. Avec, si on regarde bien, vous vous rendez compte aussi, c'est un grand coloriste. C'est-à-dire qu'il y a des harmonies colorées, l'air de rien. De ce point de vue-là, il est assez proche de Adami. Avec à côté... alors, il recycle aussi les dessins de presse. Hein, bande dessinée, dessins de presse, dessins d'illustration, illustrations scientifiques, etc. Et tout est recyclé. Et quand on regarde bien... Effectivement, il y a un côté très critique sur le monde contemporain, sur le roi et le dieu pétrole, où Américain et ici le pays pétrolier s'arrange, pour y compris la Louve romaine devient ici une louve de pétrole, etc. Ici, Jimmy Carter effectivement fait boire du pétrole à son cheval, la Statue de la Liberté tient une pompe à essence, etc. etc. Donc là, vous avez quelque chose ici qui est en même temps très politique. Et à chaque fois, c'est 2 mètres sur 3 mètres. C'est des trucs...
Il est tout seul.
Ah oui, non, là, de ce point de vue-là, c'est un être assez incroyable, une énergie prodigieuse. Je crois qu'il a 3 vies. Il a une vie à Paris, une vie en Islande et une vie en Malaisie ou aux Philippines. Dans chaque vie, il a femme et enfant.
Oui, c'est quand même
rare. Oui. Et donc, c'est...
Quand même,
comment
bien.
Ah, mais c'est un virtuose. Et le problème, si vous voulez, de beaucoup de gens...
Quand même,
qui sont... le problème de gens qui étaient des virtuoses justement, qui dans ces années 70, etc., si le seul modèle, c'est l'art conceptuel, l'art abstrait, la gestualité, l'expressionnisme, etc., il y avait une sorte de manque et de frustration terrible pour tous ceux qui ont fait du graphisme et de la maîtrise du dessin leur point de repère. Et donc, il y a la bande dessinée qui va être un des endroits pour lesquels certains vont se dédier. Et puis, vous avez aussi ceux qui, justement, ne veulent pas abandonner le dessin et essayent de trouver une force au graphisme, au dessin, tout en restant dans une problématique, on va dire, d'un art majeur, sans héros, tout ce qu'on a vu en font partie. Donc ça, c'est assez clair. Et quelqu'un, alors c'est beaucoup en France, hein, quelqu'un comme Gérard Titus Carmel, lui aussi vit toujours, c'est pareil. Hein. Alors lui, il fait quelque chose d'assez... Il fait des peintures et... hyper réaliste, des dessins hyper réalistes, de choses qui ne servent à rien. Il fabrique des espèces de micro-sculptures un peu étonnantes, avec des fils, des tissus, des bouts de bois, des baguettes, des choses qui ne représentent rien, pour pouvoir les dessiner et les peindre de façon hyper réaliste. Avec, en même temps, justement, cette idée un petit peu de vanité au sens presque philosophique du terme, c'est à quoi bon d'avoir cet objet, à quoi bon le représenter, si ce n'est une espèce d'inquiétude, de questionnement, hein, de qu'est-ce que c'est comme geste humain que de vouloir à tout prix traduire ce que l'on voit, avec cette espèce de grande précision. Et en même temps, il joue à la fois sur l'illusion, ce qui peut être hyper réaliste, et en même temps, il démontre, on voit bien ce dont il s'agit. Il s'agit d'un assemblage officiel, il n'y a pas de mystère. Et on voit bien aussi comment c'est fait. Il y a des coulures, il y a des bavures, il y a des traces. Même quand il va dessiner au crayon, il va travailler sur, on va voir les traces de crayon. Comme par exemple ici. Alors là, j'ai zoomé, etc. Hein, tout d'un coup, une espèce de boîte abîmée, tout d'un coup, un cube qui d'un coup devient fragile et tout d'un coup devient rogné. Donc tout d'un coup, on voit les traces de crayon qui vont faire le volume. On passe de la ligne à la surface, de la surface au volume, etc. Une sorte de déconstruction. Alors, c'est pas un hasard. La déconstruction, il est vrai, très proche de Derrida, le philosophe, de Gilles Deleuze, etc. Cette idée de révéler les outils que l'on utilise, les médiums, le monde dans lequel on vit. Donc, construire, déconstruire, c'est quelque chose de typique. Et voilà, par exemple, hein, encore, toujours ici, vous avez un travail au lavis, et là, un travail au crayon. Avec y compris un élément collé de la véritable baguette qui lui a servi de modèle, avec un travail encre et crayon, estompage, dessin, lavis, etc. Donc, là encore, une mise en scène.
Une sorte de nature morte.
Une nature morte, mais de rien. De quelque chose qui, en même temps, est purement artificiel.
C'est quelque chose qu'il crée.
Voilà, qu'il crée, et puis le plaisir, à la limite, d'avoir pu se laisser libre cours à une imitation de quelque chose qui n'avait pas de sens. Donc on n'est pas dans l'illusion d'une présence, on n'est pas dans l'admiration d'une nature supérieure, etc. On est vraiment dans une sorte de... On est au cœur de la représentation sans sujet, sans raison. Et d'ailleurs, Derrida écrit ce livre, alors, très compliqué à lire, j'ai lu à chaque fois, j'abandonne. J'ai même demandé à une collègue prof de philo, ah ben que connaît Stéphane, non pas Evelyne, mais celle qui a à Corot. Mais en prépa, Derrida me dit non, je comprends rien. Elle est prof en classe prépa en Cagne, hein, donc Kayla Gillespie là. Elle dit non, je comprends rien. Mais le livre de Derrida, c'est La vérité en peinture. C'est la vérité, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on fait avec ses mains, qu'est-ce qu'on fait avec la lumière, qu'est-ce qu'on fait avec son travail, qu'est-ce qu'on fait avec son modèle, etc. Comme il n'y a plus de sujet, il n'y a plus d'autre enjeu que le faire, hein, et le regard. Alors Titus Carmel, de ce point de vue-là, est intéressant parce qu'on est dans des considération esthétique, voilà encore. Là encore, des objets étranges, hein, que l'on voit ici, qui ne servent à rien, complexes, et en même temps décrits, définis avec un luxe de précision, et en même temps, tous les statuts de la représentation, du dessin au volume, en passant par la surface, et la révélation, y compris l'outil, hein, qui va être gestuel, tracé, etc. Donc quelque chose de... Et le texte en dessous. Le texte en dessous, ça c'est typique de Titus Carmel. Là encore, la boîte. Il en a fait des séries entières, une sorte d'effet de fascination. Alors ça, c'est quelqu'un qui, hélas, c'est la seule œuvre que j'ai de lui, en production. C'est un dessin crayon, hein, Alors là, je zoome le dessin, effectivement.
Il s'appelle Wolfgang Gevgen.
G-A-F-G-E-N. Et là aussi, on est un peu... Alors, c'est très proche de Titus Carmel au niveau de la démarche, puisqu'on est dans une sorte d'illusion de quelque chose, finalement, qui n'a aucun intérêt, a priori, qu'on ne peut même pas identifier. Alors, de ce point de vue-là, on est dans le paradoxe, on va dire, un peu philosophique de la Gestalt. Normalement, la Gestalt, c'est une figure qu'on peut identifier. C'est tout d'un coup, on voit une forme et on peut l'identifier, donc c'est une figure. Et tout d'un coup, on voit une forme très clairement, et en même temps, on ne peut pas l'identifier, on peut même la ramener à rien. Sauf peut-être la terre, mais c'est quand même tranché aussi, là, peut-être, mais etc. Et chez Titus Carmel, c'est ça aussi. C'est tout d'un coup, finalement, quand est-ce qu'il y a figuration ? Est-ce que c'est quand on identifie ? Et qu'est-ce qu'on identifie ? Est-ce que c'est la forme ou alors, par exemple, est-ce que c'est la lumière ? Est-ce que c'est la lumière qui fait du sens ? Et tout d'un coup, vous avez là des enjeux qui sont intéressants. Alors, ces artistes, à chaque fois, dévoilent aussi l'outil, hein, puisqu'ils laissent voir le trait de crayon, même de manière minuscule. Et alors attention, là, c'est zoomé énormément. Alors ça, c'est typique de cette démarche alors, où certains artistes vont se dire, on peut faire de l'art conceptuel et en même temps figuratif et graphique. Parce que si vous voulez, la plupart des artistes conceptuels ou abstraits avaient éloigné tout ce qui était figuration. Tandis que ces artistes-là se disent, mais finalement, la figuration, c'est pas uniquement de la narration, de la séduction, ça peut être aussi un questionnement. Un autre artiste qui est assez étrange, très étrange, je vous l'ai présenté quand on a fait l'hyperréalisme, c'est Jean-Olivier Hucle. Vous vous souvenez, c'est lui qui avait fait des peintures hyperréalistes, des dessins et des peintures hyperréalistes. Je sais pas si vous vous souvenez, les deux jumelles, ou par exemple, des portraits de Marcel Duchamp, de Mondrian, qui étaient des grands portraits en noir et blanc. Il avait fait aussi des cimetières, à partir de la mort de sa mère. C'est quelqu'un qui était un hyperréaliste français absolument prodigieux. Et, vous voulez que je vous en remontre ou... Parce que je vois qu'il y en a qui ne suivent pas. Alors, attendez. Je vais vous montrer, parce que ça vaut le coup, de voir d'où il vient, justement. Alors, il est mort, voilà, 2 ou 3 ans, hein. Il est mort voilà 2 ou 3 ans et ah ben voilà ça c'est des dessins ça c'est un dessin de Jean-Olivier Hucle. Alors là quand on zoome c'est un dessin fait au crayon ça aussi ça c'est une peinture à l'huile. Ça, c'est un dessin au crayon de Samuel Beckett. Donc, ça fait 2 mètres de haut. Hein. Donc, ça, c'est Jean-Olivier Hucle. C'est donc un personnage qui. Alors, attends, là, je peux zoomer un peu.
J'ai appris à dessiner.
Comment ?
J'ai appris à dessiner.
Alors, quelque part, lui, ben, il fait l'idiot, c'est-à-dire qu'il prend une loupe. Ah, ça, c'est pas lui, attendez. Ça, c'est l'autre. Les Hucle, attendez. Ah ben ça c'est encore Hucle, alors ça c'est une peinture, hein, c'est tout bête.
Ah ben c'est ça les jumelles.
Hein. Ça les jumelles. C'est une peinture. Alors là, on peut zoomer. Donc, alors moi j'ai eu la chance de le rencontrer, d'aller même dans son atelier, avant qu'il meure. Donc ça fait 5 ou 6 ans. Et pourquoi je les zoome plus là. Et ça, par exemple, ben le voilà dans son atelier, ça c'est Mandela, Mondrian, etc. Et Hucle faisait du dessin une sorte de pratique presque thérapeutique, hein, comme une sorte de discipline absolue, un petit peu comme ce que je montrais, le complexe du homard, hein, se trouve une sorte de structure terrible pour occuper son temps, parce que sinon, il éclate. Quoi. C'est-à-dire qu'il fait un coup, il lui faut donc cette espèce de rigueur absolue, donc avec loupe. Et 2 cm carrés par jour, il va donc dessiner 2 cm carrés par jour à peu près, en prenant son temps, etc. Sans se poser de questions, dans une sorte de... comme s'il plongeait, là encore, dans quelque chose de totalement irrationnel. C'est-à-dire que vous avez une image, la limite de l'image ne dit rien de plus qu'une photographie, et donc la seule question finalement, on arrive presque à un art conceptuel avec Jean-Olivier Hucle, parce que l'image, on ne sait même plus si c'est une photo ou une peinture, c'est tiré d'une photo en plus. Donc vous avez finalement, ça n'apporte, apparemment ça n'apporte rien, si ce n'est l'espèce de vertige du travail et du regard. C'est la capacité pour quelqu'un, par le graphisme, d'aller au plus près de la lumière, hein, et de cette espèce de, justement, de négation du corps. parce que la photographie elle est lisse, et lui aussi il va nier totalement son corps en travaillant tout petit. Donc c'est quelqu'un qui est là dans une sorte de folie, hein, totalement assumée, et une fois qu'il aura fini toute cette période de travail à partir de photographie, il va partir dans une autre phase qui est elle aussi assez stupéfiante, mais tout aussi uniquement graphique, hein, c'est un travail alors là de traits, de crayons et de... Alors on voit derrière un peu, vous voyez derrière ce qu'il appelait des peintures de déprogrammation, des dessins de déprogrammation. Alors là, c'est assez difficile à voir en partie. C'est une sorte d'écriture automatique, mais du dessin, de figuratif. C'est-à-dire qu'il laisse aller son esprit à des visions intérieures, comme si c'était une sorte de rêve éveillé, comme s'il avait figuré des sensations, des visions. Alors on passe... Il y a des dessins, il y a des plans, il y a des courbes, il y a des volumes, il y a des plis, il y a des choses comme ça. Parfois, il y a des légères taches de couleur, il y a des choses qui se densifient, des choses qui se libèrent, etc. Et donc, parfois, on voit même une figuration ici, avec des sortes d'anges, des points de repère, des schémas, et ce qu'il appelle déprogrammation, comme s'il déconnectait son cerveau de toute narration, de toute figuration a priori, et laissait les formes arriver comme ça. Mais avec la même précision qu'il avait auparavant quand il était hyper réaliste. Donc vous voyez finalement ce qui compte le plus pour lui, c'est l'espèce de densité du graphisme, ce que c'est que cette espèce de pointe là, qui tout d'un coup fait émerger des figures et des volumes, hein, avec une... Alors il m'avait montré ses carnets, il m'avait expliqué, c'est assez prodigieux, parce que dans son atelier on voyait certaines de ses peintures qui étaient près de sa voiture de sport, là, parce que c'est un bonhomme, ça. Et puis pourquoi c'était pas dans les musées, parce qu'il... Il a du mal à les vendre, certaines d'entre elles. Et puis, et ses dessins comme ça, et ses carnets, qui étaient incroyables aussi, de comme s'il plongeait le graphisme en miniature comme ça, lui permettait de plonger dans une autre dimension réelle. C'est-à-dire que vraiment, là, il y a une densité. Alors là, on est vraiment dans la densité absolue avec Hucle, puisqu'effectivement, c'est comme si on rentrait effectivement dans les plis du cerveau. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui, vraisemblablement, sera reconnu plus tard, d'ici quelques années, je pense, comme effectivement un des plus grands artistes français. Et là, vous voyez des pages de carnet avec de l'écriture, où effectivement, une espèce de... Là, on est dans l'idée de la pensée aussi. La pensée, l'écriture, la trace, le croquis, le graphisme, et tout d'un coup, la poésie aussi. Alors, il n'est pas loin sans qu'il du surréalisme. Et le voilà en train de dessiner, hein, ces sortes de projection mentale dans un fauteuil, parce que là il a 85 ans à peu près quand il fait ça, hein. Il était assez âgé, et aussi cette espèce de lenteur et de soumission. Et là encore, avec des effets de couleur, et vous voyez, avec aussi un travail d'écriture à peine visible. Et là, on retrouve l'idée du dessin, de l'écriture et de la pensée. Cette idée que finalement, écriture et dessin et graphisme, on sont toujours du côté du langage, finalement. Structuré ou déstructuré. Et c'est pour ça que...
Il écrit des choses qui ont du sens.
Poétique aussi, c'est-à-dire avec des choses qui s'en vont. On peut identifier des choses, puis d'un coup, ça glisse. Des sortes d'images doubles, triples... N dimensions multiples, etc. Ça, c'est assez clair aussi. On n'est pas dans la description, on n'est pas dans la narration. Ça, c'est assez clair. D'ailleurs, ça va dans tous les sens. Parfois. Et l'écriture se transforme en ligne, de ligne en surface, etc. On n'est pas loin. C'est un peu une sorte de Kandinsky maîtrise. Alors ça, c'est un autre graphiste et hyper réaliste français. J'ai parlé de Gérard Gazirovski, hein, qui lui aussi va être un hyper réaliste, donc va travailler uniquement en graphisme noir et blanc ici, par exemple. Donc, la fascination pour la lumière. Gérard Gazurowski. Gasurowski.
C'est lui qui est miroir pour...
Non, c'est un homme qui est de l'autre côté, c'est un jeu sur... Alors, c'est à partir d'une photographie, il travaille à partir de photographie, mais c'est une peinture en noir et blanc, c'est une peinture, c'est pas un dessin, c'est une peinture en noir et blanc. Où tout d'un coup, justement, la peinture retrouve quelque part le dessin et le graphisme. C'est donc un travail de peinture. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il aura été le plus loin possible de la peinture graphique, on peut dire, peinture hyper réaliste, va... Alors, c'est même pas la peine que je vous le montre, parce que d'ailleurs, j'ai pas trouvé de bons documents. Il va aller jusqu'à imiter des photos en noir et blanc, plusieurs, lui, son ami, etc., des scènes diverses et variées. Et il va se demander jusqu'à quel point une peinture hyper réaliste peut être identifiée. Il va peindre ensuite des oiseaux en vol, de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'il va prendre des photos d'oiseaux en vol, tout petits. Donc, si vous zoomez, vous voyez effectivement la plume d'oiseau, mais sur un ciel blanc. Donc, à faire une peinture, vous avez un tout petit point, mais en fait, si vous regardez de très près, c'est un oiseau en vol, dans un ciel blanc. C'est-à-dire que, finalement, où commence et où s'arrête l'imitation de la nature, le graphisme, etc. Et une fois qu'il aura fait son petit point d'oiseau en vol, il va arrêter sa période hyper réaliste et il va passer à une période, au contraire, d'un graphisme beaucoup plus gestuel et libéré avec ses plantes, hein, tout d'un coup, des sortes de croquis, hein, des séries entières de fleurs et des pots de fleurs, assez virtuoses. Toujours est-il que vous avez avec tous ces artistes-là, là, que je vous ai montré, puis je vais arrêter, des gens qui essayent, autour de la figuration, de retrouver des questions, en fait, de re-questionner la question de la figuration, de la narration et de l'identification. À chaque fois, alors, on est dans les années 70, hein, 70-80, avec, effectivement, hein, si on regarde bien, on est en plein questionnement d'un tas de niveaux. Hein. Et ces artistes-là sont donc tout à fait dans l'air du temps de ce point de vue-là. Et ça, d'ailleurs, c'est toujours, et puis je termine, hein, c'est toujours Gazurovski, il était fatigué, malade, c'est comme s'il était vu sur une gaze, sur de la gaze, comme si c'était une empreinte, une photographie sur une gaze ou un pansement, mais dessinée, là encore, par des petits points. Si on zoome, alors cette idée d'une pixelisation, mais en même temps qui ferait du sens parce que ça évoque aussi la toile, la gaz, la maladie, etc. Et y compris la dépression, la disparition de l'image. L'image malade, l'artiste malade, qu'il faut soigner, etc. Et d'ailleurs, voilà.
Est-il dépressif ?
Oui, il est dépressif, il est devenu à moitié fou. D'ailleurs, il est. Une de ses dernières expositions, tout le monde croyait qu'il était mort, il était là comme une sorte de clochard, personne ne savait que c'était lui. Et les gens disent « Oh, c'est bien », etc. C'est au musée d'art moderne de la ville de Paris. Il n'y a que quelques personnes qui savaient que c'était lui, mais il était un peu comme un clochard, dépressif, déprimé, connaissant presque personne. Et donc, il est mort assez jeune, à 65 ans, très jeune, 65. Et le voilà. Alors, on continuera la prochaine fois avec la figuration narrative. Et... on n'a pas fini, en fait, avec le graphisme. Il y a beaucoup de choses. Donc, on se voit la semaine prochaine. Hein.
Oui. Oui, tout à fait.
Le 2, donc ça sera 2 et 7, 9. Et après, c'est les vacances.
Oui.
Non, c'est